ces événements qui ont fait l'histoire. L'invention de l'écriture vers 3300 avant Jésus-Christ en Mésopotamie du Sud marque la fin de la préhistoire et inaugure l'entrée de l'homme dans l'histoire à proprement parler, car elle est liée au formidable développement de la civilisation urbaine. L'histoire, chacun le sait, ce sont des événements et les dates correspondantes, un peu comme 1515, Marignan. Mais un fait tout seul nous apprend peu de choses. Il faut s'élever, avoir une vue d'ensemble. Que devient la Chine pendant le règne de Louis XIV? Quels sont les événements contemporains les plus marquants en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique? Voici une machine à remonter le temps. Une initiation aux grands faits et aux grands hommes dans le monde entier. Bien sûr, il ne s'agit pas de l'histoire intégrale du monde en quelques colonnes, mais d'un choix permettant un panorama d'ensemble. C'est un jardin chronologique ou batifolé, en aucun cas une histoire du monde au jour le jour. Suivez le guide, ici et ailleurs, pour une promenade depuis le fond de la caverne jusqu'à aujourd'hui. Faits insolites et méconnus. Fameux et inconnus, petits et grands, tous les épisodes contribuent à la mosaïque de l'histoire. Les guerres méconnues. L'histoire des hommes, c'est aussi malheureusement celle des conflits qui les opposent. Selon la célèbre formule de Karl von Clausewitz dans son ouvrage de 1832 intitulé « De la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens ». Il est courant d'opposer les grandes guerres, celles qui concernent un ou plusieurs continents, avant tout la Première et la Seconde Guerre mondiale, aux petits conflits, plus localisés géographiquement, appelés aussi couramment conflits périphériques. Vous allez découvrir des formes de conflits moins connues, mais tout à fait surprenantes. Connaissez-vous la guerre fleurie des Aztèques, la guerre en dentelle des aristocrates du XVIIIe siècle, ou bien le rôle de la reine Victoria dans le trafic et la guerre de l'opium? Pas encore? Prenez vos aises, vous n'allez pas tarder à tout savoir du dessous des cartes. La guerre fleurie aztèque. La civilisation aztèque connaît son apogée entre le XIVe et le début du XVIe siècle. Ce peuple nomade à l'origine fonde un empire centré sur le Mexique actuel. L'effondrement est brutal puisque trois années, entre 1519 et 1521, suffisent aux Espagnols de Cortés pour détruire l'empire aztèque. L'origine de la guerre fleurie est religieuse. Selon les Aztèques, quatre mondes ont déjà été créés et détruits. Le nôtre est le cinquième et le dernier. Cela explique l'impact psychologique de la croix chrétienne sur ce peuple qui considérait comme le symbole des quatre mondes détruits les quatre branches et le centre de la croix comme le cinquième. Au début de notre monde, les dieux se réunissent dans la plaine de Teotihuacan, près de Mexico. Ils parviennent à recréer l'univers, mais les astres, soleil et lune sont immobiles. Il faut leur redonner vie, et la vie, pour les Aztèques, c'est le sang humain. Tous les dieux se sacrifient et le soleil reprend sa course, jour et nuit, alternant de nouveau. Depuis, les hommes doivent offrir du sang aux dieux, sinon le soleil s'arrêtera. La guerre fleurie a donc pour but, en cas de paix prolongée, de capturer le plus d'ennemis possible et de les ramener vivants pour les sacrifier. En période de guerre ordinaire, les prisonniers de guerre jouent ce rôle.
Le saviez-vous ? L'eau précieuse. Eau précieuse, telle est l'appellation donnée par les Aztèques au sang humain. Mourir sacrifié aux dieux est considéré comme un honneur. La victime gravit la pyramide du temple. Parvenue au sommet, elle est placée sur un autel sacrificiel, allongée sur le dos. Le prêtre lui ouvre la poitrine au moyen d'un couteau en silex et offre le cœur, palpitant encore aux dieux. Puis, la peau est enlevée. Un prêtre s'en couvre, ruisselant de sang. Le reste du corps est précipité et roule sur l'escalier gigantesque qui conduit au sommet. Le soleil peut continuer son cycle. Pour les grandes cérémonies, comme pour l'inauguration d'un temple ou le début d'un règne, plusieurs dizaines de milliers de victimes étaient sacrifiées.
La guerre en dentelle. Ne nous trompons pas. Elle est tout aussi meurtrière que les autres, mais son nom lui vient de la manière de la pratiquer. Il s'agit des combats menés au XVIIe et au XVIIIe siècle des relations entretenues par les officiers aristocrates des camps en présence. La mode vestimentaire oblige à une surabondance de dentelles dans le costume masculin. Cette délicatesse de la vêture doit se retrouver dans la manière d'organiser la guerre. Les combats sont interrompus si un maréchal fête son anniversaire, ou encore pour organiser les réjouissances en cas de naissance royale. Des messages transmettent les propositions pour l'heure et le lieu convenable pour reprendre la bataille en cours. C'est donc un assaut de courtoisie, un étalage de bonnes manières entre gens nobles, bien nés, pour définir le cadre de la bataille. Ensuite, l'horreur, la mort, la souffrance des hommes reprennent toute leur place. La guerre de l'opium. Il s'agit de la première guerre commerciale opposant les Chinois aux Britanniques entre 1839 et 1842. Les Anglais importent de plus en plus de thé de Chine et le payent d'abord en coton, puis en opium. L'empereur de Chine tente de s'opposer à ces arrivées massives d'opium qui font des ravages dans son peuple et en décrète la vente illégale. En 1839, le gouverneur de Canton fait brûler en public 20 000 caisses de drogue, l'empereur ayant interdit l'importation d'opium. Les Anglais répondent en déclenchant la guerre qu'ils gagnent en 1842. Le traité de Nankin, le 29 août 1842, donne aux Britanniques le droit de vendre librement de l'opium et leur concède l'île de Hong Kong. Victoria Ière, reine d'Angleterre de 1837 à 1901, doit donc une part importante de ses revenus personnels et de ceux de la couronne britannique au trafic de drogue imposé à la Chine. L'affaire rapporte tellement que Français, Américains et Russes se joignent aux Britanniques pour la seconde guerre de l'opium entre 1856 et 1860, infligeant à la Chine une nouvelle défaite. Faits insolites. Les groupes humains présentent une infinité d'organisations sociales, de règles de vie possibles et d'histoires. Certaines sont bien connues de tous car elles sont celles de notre vie quotidienne, mais un peu de curiosité permet d'explorer l'insolite ou le méconnu. Une enceinte de pierre du XIIIe siècle au Zimbabwe dont on connaît à peine les créateurs et l'utilité. Des moines tibétains plus adeptes du coup de bâton que de la récitation des textes sacrés. Des guerriers Cheyennes devenant femmes, ou le Navajo, langue secrète de la Seconde Guerre mondiale. L'enceinte de pierre du Zimbabwe, ou Great Zimbabwe. C'est dans la partie méridionale de l'ancienne Rhodésie, aujourd'hui Zimbabwe, au sud-est du pays, que se trouvent les ruines imposantes de l'enceinte de pierre du Zimbabwe. C'est là tout ce qui reste du royaume fabuleux du Monomotapa, qui connut, semble-t-il, son âge d'or au cours du XVe siècle. On ne trouve en pays bantou que quatre autres sites où la pierre taillée fut employée. Kami, Dlodlo, Naletali et Inyanga. L'enceinte de pierre du Zimbabwe mesure plus de 11 mètres de hauteur à son point culminant, avec une largeur de base de 5 mètres. Sa forme générale est celle d'une ellipse de 100 mètres de diamètre et de 225 mètres de circonférence pour une superficie de 27 000 mètres carrés. Elle abritait probablement un espace consacré à des rites de la fertilité. De place en place, l'enceinte est ornée de hautes tours, elles aussi en pierre, sans que leur rôle exact nous soit connu. Lorsque le site fut découvert en 1868, il était abandonné depuis longtemps, depuis le début du XIXe siècle au moins, et les tribus locales ne savaient rien à son sujet. Attribué un temps à la mystérieuse reine de Saba, il semble que l'édifice ait été construit par des Africains, les Shona, au cours du XIIe siècle. Il aurait servi à la fois de lieu de culte et de demeure pour les épouses du roi, avant d'être abandonné pour des raisons mal connues, après 1450. Au Tibet, la querelle des bonnets. Les ordres religieux tibétains sont au nombre de 6, dont 4 subsistent de nos jours. Ils ont été fondés en général par des maîtres indiens, le plus célèbre étant le moine Atisa, mort en 1054. Il s'installe au Tibet en 1042 et y fonde l'ordre des Kadampa dont dépend le Gelugpa, l'église jaune dont le chef est le Dalai Lama. Son enseignement est poursuivi par son disciple Domton qui fonde en 1057 le monastère de Radeng au nord de Lhasa. Rinchen Zangpo effectue au début du XIe siècle plusieurs voyages au Tibet où il est à l'origine de la traduction de très nombreux textes en sanskrit et fonde le temple de Toling. Le maître Marpa, par son enseignement et ses œuvres, est à l'origine du couvent de Sakya, fondé en 1073 au même titre que Dogmi. Le premier introduit au Tibet les chants mystiques du Tantra, le second la pratique de la méditation qui mène par l'éveil au Lamde, voie et fruit, c'est-à-dire la connaissance parfaite de la vérité. L'ordre du Karmapa regroupe les bonnets rouges, mais cette appellation générique est utilisée pour désigner l'ensemble des ordres anciens avant que se produise la réforme dite des bonnets jaunes. Ces derniers doivent leur existence à Tsongkhapa, fondateur en 1409 du monastère de Ganden, non loin de Lhasa. Atterré par les mœurs des moines des ordres anciens, leur absence de discipline, les luttes incessantes entre monastères pour le pouvoir, ils réforment en profondeur la vie monacale. Car les bons moines se sont considérablement éloignés du bouddhisme, consommant de l'alcool, entretenant des maîtresses, attaquant les monastères voisins pour les piller. Certains se sont spécialisés dans le combat au bâton, au point d'être davantage des maîtres d'arts martiaux que des moines. La réforme des bonnets jaunes les ramène à la prière, la méditation et la lecture des livres saints. Cheyennes des plaines, quand un homme devient femme. Les Cheyennes appartiennent au groupe des Indiens des plaines, tout comme les Blackfeet ou Pieds Noirs, les Atsina, les Assiniboines, les Crow, les Arapaho, les Comanches, les Kiowa. Leur lieu d'habitat varie en fonction des guerres indiennes et des déplacements des hordes de bisons. Ils occupent successivement le Minnesota avant la fin du XVIIIe siècle et sont alors des agriculteurs sédentaires. Puis, chassés par les Chippewas, alors qu'ils ont déjà migré sur les berges du fleuve Cheyenne au Dakota du Nord, ils gagnent le fleuve Missouri. À ce moment, ils abandonnent l'agriculture au profit de la chasse aux bisons. Au début du XIXe siècle, ils sont installés sur les fleuves Platte et Arkansas, divisant la nation en Cheyenne du Nord et Cheyenne du Sud. Dans la société Cheyenne, la femme jouit d'une grande liberté. Le mariage se réduit à une tractation commerciale, le prétendant offre un nombre de chevaux et en reçoit de même pour la constitution de la dot. Un guerrier peut épouser plusieurs femmes, en fonction de sa valeur à la chasse, car il doit les nourrir convenablement, elles et leurs enfants. S'il ne s'en sent plus capable, s'il est diminué physiquement par un accident de chasse, ces femmes peuvent le quitter. Le seul interdit est l'adultère féminin, puni par l'ablation du nez de la coupable. La société des Indiens des plaines se caractérise par une coutume qui a beaucoup frappé les Européens. Un homme qui ne se sent pas capable d'être un guerrier et un chasseur peut choisir de devenir une femme. Il porte alors des vêtements, une coiffure de femme et se consacre comme elle au travail des peaux. Cette situation n'est pas définitive. Si le guerrier le désire, il peut reprendre sa place parmi les hommes. Ce passage d'un statut à un autre n'entraîne aucune dévalorisation de la personne.
Parle, espion, mais en Navarro. Les Navarro ou Navao appartiennent au groupe linguistique des Athapascans. Navarro est le nom qui leur est donné par les colons espagnols, au moment du premier contact, dans le premier tiers du XVIIe siècle. Les Indiens Navarro se nomment eux-mêmes le peuple, Dene. Ils occupent un vaste territoire à la frontière des États du Colorado, de l'Arizona, de l'Utah et du Nouveau-Mexique. Après la guerre de sécession, les Navarro sont déplacés dans la partie orientale du Nouveau-Mexique, pour occuper la réserve de Bosque Redondo. Pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se déroule entre 1939 et 1945, l'état-major américain cherche un langage codé pour les transmissions secrètes dans le Pacifique. Le choix se porte sur le Navajo, langue indéchiffrable par les opérateurs radio japonais. Tout au long du conflit, la langue indienne assure la transmission d'informations dans des conditions de parfaite sécurité. Un lexique de 274 mots est forgé, ainsi qu'un alphabet pour épeler les mots difficiles. Le général Seizo Harisu, chef des renseignements japonais, n'a jamais pu percer le code. Un des rares à n'avoir jamais été brisé. En 1968, le code Navajo est libéré du secret défense. Et en 1982, le gouvernement américain institue en l'honneur des chiffreurs Navajo une journée d'honneur tous les 14 août.
Les grandes civilisations. Chercher à comprendre les civilisations est une préoccupation récente. Le terme n'apparaît dans le dictionnaire de l'Académie qu'en 1835. Elles sont associées à l'écriture, à son pouvoir magique et pratique. Partons d'abord à la découverte de la Mésopotamie, le pays entre deux fleuves. La Mésopotamie. Le pays entre deux fleuves, Sumer pour ses habitants ou Mésopotamie, nom donné par les Grecs et qui signifie « pays au milieu des deux fleuves », s'étend entre le Tigre et l'Euphrate sur le territoire de l'Irak actuel. Peuplé déjà il y a 6000 ans, il voit arriver vers moins 3300 des Sumériens s'installant dans le sud. On ignore d'où ils viennent. Ils créent des cités-états comme Uruk, Eridu, Kish, dominé par une caste de prêtres-princes qui gouvernent depuis le grand temple situé sur une terrasse élevée au centre de la ville. Pour les besoins administratifs du temple, comme comptabiliser les offrandes ou savoir d'où elles proviennent, ils inventent l'écriture vers moins 3300. Sargon Ier, roi puissant d'Akkad. Au même moment, mais au nord, des peuples sémites nomades venus du nord de la péninsule arabique s'installent le long de l'Euphrate. Ils fondent des villes, Mari et Agadé, la future Akkad. En moins 2334, le roi Sargon Ier d'Akkad conquiert toute la Mésopotamie, dont il devient le roi Dieu. Akkadiens au nord et Sumériens au sud lui doivent une obéissance absolue. Sargon d'Akkad, dit l'Ancien, pourrait être un modèle pour Moïse. Nous ne savons presque rien de Sargon, son nom même est en réalité son titre, Charoukin, qui signifie « roi légitime ». Sa légende est relatée plus de 1500 ans après sa mort, et comme tout roi Dieu, il se doit d'avoir surmonté dès la plus tendre enfance les épreuves les plus terribles. Un modèle héroïque dont les rédacteurs de l'Ancien Testament se souviendront. Car, comme Moïse plus tard, Sargon est abandonné dans une corbeille sur un fleuve.
Un peu de technique. Les pièces d'un puzzle instable. La Mésopotamie connaît, au cours de son histoire, l'installation, en même temps en des lieux différents, ou à diverses époques, de plusieurs populations. La Mésopotamie conquiert l'Empire sumérien vers moins 2350. Leur langue, l'akkadien, devient langue nationale vers moins 1600. Les Sumériens, probablement venus d'Iran, occupent dès le troisième millénaire le sud de la Mésopotamie, près du golfe Persique. Ils inventent l'écriture cunéiforme et donnent le premier récit du déluge. Les Akkadiens, peuple sémite établi sur le moyen Euphrate et au sud. Les Assyriens, descendus du nord de la Mésopotamie, occupent le pays d'Assur, territoire du cours supérieur du Tigre. Les Babyloniens sont formés des diverses populations de la Mésopotamie. Ils fondent un empire du nord au sud, le long des rives du Tigre et de l'Euphrate.